Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le microéconomique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le format de l'émission, nous allons dans un premier temps poser la même salve de questions que d'habitude à un économiste, avant de l'interroger plus avant sur son domaine de spécialité dans un second temps.
Alors, bonjour monsieur, bonjour Jean-Hervé Lorenzi, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bon, je suis professeur d'économie, maintenant baptisé émérite, ça veut dire la retraite, de Dauphine.
Si vous deviez choisir un seul objectif politique à atteindre, lequel serait-il ?
Évidemment, le problème de l'emploi.
Quelles mesures politiques défendez-vous ?
Ben, je pense qu'il faut peut-être... avoir une petite analyse sur la réalité de la situation économique française. C'est-à-dire qu'elle est très compliquée à comprendre, dans la mesure où c'est les mêmes Français qui sont avant 2003 et après 2003. Et ce qui est très caractéristique, c'est de voir que le problème du critère du commerce extérieur, qui est quand même un critère assez révélateur de la situation d'un pays, qui se dégrade dans des conditions aussi rapides. Alors, il se dégrade pour des tas de raisons, mais si j'en reprends une, c'est le fait que les gammes de produits telles qu'on peut les définir, soit en gamme de produits, soit en niveau de technologie intégrée dans les produits, sont quand même... très directement frappé par la double concurrence, une concurrence de gamme plus élevée, ce qu'on dit toujours sur l'Allemagne ou sur d'autres pays, et une gamme de produits moins chers que sont les produits à l'époque des pays émergents. Et donc, si j'avais une politique économique à mener avec le seul objectif de l'emploi, j'essaierais de bien réfléchir au double sujet de la compétitivité. J'essaierais de regarder comment on peut essayer de rendre le coût du travail compétitif. Mais je veux bien m'expliquer là-dessus, parce que ça ne veut pas obligatoirement dire baisse des rémunérations pour les gens. J'essaierai de regarder quand même les problèmes de qualification, parce qu'on est dans une économie mondiale qui a une caractéristique très particulière, c'est qu'au fond, elle, contrairement à ce qu'on pense, elle produit beaucoup de non-qualifiés. Donc il faut essayer de regarder ce qui se passe. Évidemment, ça renvoie en France au problème de l'école. Je regarderai ce qui se passe sur le problème de la R&D, parce que quoi qu'on dise, les montants de R&D consacrés en France sont... un peu plus faible qu'ailleurs dans les pays. Et je regarderai enfin le sujet de l'investissement, c'est-à-dire ce qui est quand même le moteur de la trajectoire qu'un pays suit et qui est aujourd'hui très faible, parce qu'il est négatif. Je parle d'investissement des entreprises. Et quand on regarde plus précisément l'investissement utile, c'est-à-dire pas les immeubles, pas l'immobilier, mais l'investissement vraiment utile est quand même très très faible, en régression. Donc qu'est-ce qui fait que je peux, à un moment déterminé, favoriser l'investissement ? Donc c'est toute une panoplie de sujets qui vont des problèmes de coût du travail. J'y rajoute évidemment l'insertion des outsiders, des extérieurs, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, les seniors sur le marché du travail, ou leur sortie du marché du travail. Je rajoute donc les problèmes de R&D, les problèmes de qualification, donc de formation, et les problèmes d'investissement. Et j'en ferai l'élément de ma politique, l'unique élément de ma politique. Je dois dire qu'après, savoir si les notaires doivent... être, je sais pas quoi, tout ça c'est une question mineure. Ce qui me frappe, et je, pardon d'être bavard, mais je le suis complètement, ce qui me frappe, c'est que c'est très compliqué dans notre pays depuis une vingtaine d'années de relier les politiques économiques menées, quelles qu'elles soient, à une vision de la trajectoire de l'économie mondiale, une vision de la trajectoire de l'économie européenne et française, et d'essayer, par rapport à ça, de voir comment on traite les problèmes principaux. On est toujours sur les problèmes secondaires, des bagarres. Est-ce que le fait qu'il y ait 5 dimanches ouverts ou 7 ou 12, est-ce que ça change la face du monde ? C'est évidemment non. Est-ce que c'est symboliquement important ? puisqu'il y en a 5, si on en met 5,5, ça ne changera pas la face du monde. En revanche, l'insertion des jeunes sur le marché du travail, c'est majeur, enfants, etc., etc.
D'accord. Est-ce que vous êtes pour un revenu de base au niveau du revenu de subsistance ?
Oui, je suis favorable parce que je crois qu'il faut, je reviens toujours sur l'économie mondiale. L'économie mondiale est en train de complètement changer ses modalités de fonctionnement depuis quelques années. La crise n'a été qu'un révélateur d'un changement très profond. Et évidemment, le transfert d'activités massif des pays émergents vers les pays émergents des pays occidentaux, des pays de l'OCDE, sorti des sociétés, toute une partie des non-qualifiés qui sont les victimes de cette période. Et donc c'est à eux qu'il faut penser par rapport à un revenu de subsistance. Mais je suis aussi pour une insertion du marché du travail assez largement repensée. Voilà, donc là aussi c'est un ensemble de mesures. Je ne suis pas juste pour une chose jamais, mais pour un paquet de solutions qui sont plus ou moins cohérentes.
Est-ce que vous êtes pour un revenu maximal mondial ?
Je vais, vous qui êtes un économiste historien, vous allez le devenir, parce qu'il faut se connaître l'histoire, et l'histoire des idées. L'idée est vieille comme le monde, il y a un juste prix. Elle se retrouve dans tous les écrits. Alors ça a été à la fin une version de la productivité chez marginalisme. L'idée que le prix doit être raisonnable, doit être correspondre à la réalité de ce qu'on fait. Donc évidemment, je pense que quand j'étais jeune, vous étiez de droite, vous pensiez que les salaires devaient avoir une échelle de 1 à 20 ou 1 à 30 à la suédoise. Si vous étiez de gauche, vous étiez à 1 à 40. Maintenant, on est à 1 à 5 000. C'est évidemment que ça n'a aucun rapport avec une quelconque réalité. Donc, cela dit, c'est un mouvement, comme l'a assez bien montré Piketty, mais je trouve là aussi, peut-être en ne mettant pas suffisamment en lumière les phénomènes, de fonctionnement des sociétés, le salariat de haut niveau est devenu incontrôlable. Et donc, alors, il a oublié de rappeler qu'il y a un débat depuis toujours entre les actionnaires et les salariés. C'est vieux comme le monde. Il y a des auteurs comme Burl et Mintz qui avaient bien expliqué qu'il y avait cette relation, cette bagarre. Et le prise de pouvoir assez large, le partage du pouvoir nouveau entre les hauts salariés, le management et l'actionnariat explique une large partie de ce qui se passe aujourd'hui.
Est-ce que vous êtes pour une démocratie mondiale sur les domaines qui ont besoin d'être gouvernés à l'échelle mondiale ?
Moi, je suis pour, comme je suis pour le bonheur humain, je suis pour que vous réussissiez le maximum, je suis pour mourir dans la tranquillité, mais c'est une utopie. J'ai été très frappé qu'en 2010-2011, on avait développé finalement des idées d'une gouvernance d'économie mondiale qui, par nature, aurait été démocratique, on pourrait le supposer, et qui s'est évanouie au fur et à mesure que chacun a retrouvé. Donc je n'y crois pas. Je suis pour la démocratie dans tous les pays du monde.
D'accord. Est-il important d'augmenter le PIB ?
Bien sûr que oui. Comme je me suis, non pas évertué à le dire, mais bien prétentieux, mais comme je vous l'ai dit dès le départ, je suis pour que les gens aient un emploi. Donc, on peut raconter ce qu'on veut, mais je pense que c'est mieux que quelqu'un ait un emploi plutôt qu'il n'en ait pas s'il souhaite l'avoir. Mais à l'évidence, c'est le souhait de beaucoup de gens. Donc, ça va avec le PIB. Alors après, le PIB, on peut le faire de milliers de manières différentes. Et la question est un peu, frustre. Mais par ailleurs, évidemment, oui. Alors si le PIB consiste, l'accroissement du PIB consiste à déforester et à polluer la terre entière, évidemment que j'ai une réaction. C'est pour ça que je dis que c'est... Mais si la question est-ce que je suis pour la croissance ? Oui, je suis pour la croissance.
Quel livre d'économie conseillez-vous ?
Je trouve que l'introduction du livre de Piketty est formidable. Elle ramène les économistes. Alors le livre aussi, mais objectivement, beaucoup de gens l'ont acheté, peu de gens l'ont lu. Mais en revanche, je trouve que son introduction est formidable. Et puis, je conseillerais des très grands bouquins d'économie pour essayer de remettre un peu l'économie en tant que science sociale et pas en tant qu'extension des mathématiques, même si ça vous met un peu en état de faiblesse. Mais je trouve qu'il faut lire, il faut essayer de lire un grand auteur du 19e siècle, il faut essayer de lire Ricardo. Alors qu'est-ce que c'est que l'économie politique ? Après, Ricardo, il défend des positions, Marx en défend d'autres, tout le monde en défend, c'est très intéressant. Il y avait un bouquin exceptionnel qui était sur la critique du marginalisme, c'est-à-dire cette vision du monde, faite par un très jeune économiste russe, qui s'appelait Boukharine, qui est mort dans les camps staliniens, il était fusillé, et qui s'appelait l'économie politique du rentier. Il y a quelques très grands bouquins d'économie qui peuvent être libéraux, pas libéraux, mais qui sont des espèces de réflexions générales et qui nous ramènent à ce que d'ailleurs, ce que fait très très bien l'introduction de Thomas Piketty, c'est qu'est-ce que c'est que l'économie.
D'accord. Est-ce que vous êtes pour un changement dans l'enseignement de l'économie à l'université, qui devient plus pluraliste ?
Oui, bien sûr. Je viens de, c'est exactement de là d'où je viens, puisque on était sur France Inter, dans une émission qui s'appelle On n'arrête pas l'économie, et j'étais avec Benjamin Coria, dont je ne partage pas les idées, c'est un économiste atterré, moi je suis beaucoup plus, on va dire, centriste, recentré, mais je trouve qu'on est parti dans une dérive de l'absence de ce qu'est l'économie politique, qui est dommageable, donc, bien entendu.
Comment s'organise votre journée type ?
J'ai 6 métiers que je fais moins. Non, ne croyez pas du tout, il n'y a aucune prétention, et je pense que c'est juste de la curiosité. J'ai, on va les prendre, j'ai une espèce de fort back-office qui est financier. Je suis dans une banque qui s'appelle Edmond Rothschild, qui m'assure une petite rémunération et surtout une capacité d'organiser et surtout bien organiser techniquement ma journée et surtout qui me permet de bien comprendre ce qui se passe sur le marché financier, qui est à mon avis très très important parce que c'est des révélateurs formidables. Ça, c'est un bout du sujet. Après, l'autre grosse partie, c'est le sexe économiste. Parce qu'on organise à Aix-en-Provence des trucs qui sont, je trouve, très bien. C'est avec des gens beaucoup plus jeunes. C'est formidable pour un lieu de voir des gens jeunes. C'est eux qui font le programme. Ils sont formés. Bon, je veux dire, c'est très intéressant. Mais par exemple, cette semaine, on a organisé avec 10 think tanks allant d'Attaque les Atterrés jusqu'à l'Institut Montaigne et l'Institut d'entreprise un débat sur l'économie mondiale. Et c'était quand même ces jeunes qui étaient à la manœuvre. Donc, puis il faut trouver de l'argent pour financer les opérations de par exemple d'Aix-en-Provence. Donc ça prend pas mal de temps. Après, j'ai une chaire. Une fois de plus, tout ça est modeste. C'est plutôt un truc de mon âge. Et, moi, j'anime. Je donne des conseils, des ceci, mais la pensée, elle est faite par des chercheurs. Et loin de moi l'idée de me présenter comme un chercheur. Sinon, ce serait un chercheur émérite. Au sens émérite. Et c'est sur la transition démographique, transition économique. Ça, c'est une conviction très forte. C'est que l'histoire du monde, comme le disait Braudel, s'explique assez largement par les chocs démographiques. On est en train d'en vivre un, donc c'est très important. Il y a 50 chercheurs. Une fois de plus, loin de moi l'idée de dire que c'est un travail de recherche. Et, c'est un travail peut-être d'animation. Là aussi, il faut trouver un peu d'argent, de ceci. Bon, mais c'est bien, c'est formidable. Après, je m'occupe d'un pôle de compétitivité qui s'appelle le pôle de compétitivité finance innovation et qui revient à expliquer que pour peu qu'on fasse une finance rééquilibrée, soucieuse de financer l'économie réelle, soucieuse aussi du social et solidaire, on a en France des atouts formidables. Ça, c'est pas mal et ça prend, on va dire, par exemple, ça va me prendre, on est samedi à partir de 11h, et on va travailler pour le développement des jeunes, etc. Après, je m'occupe d'une revue top, modeste, là aussi, c'est de l'animation. Au fond, je suis un animateur, bon, j'essaie d'être sympathique et souriant, mais enfin bon, que ça relativise bien ce que je peux faire, mais c'est une revue qui prend un peu de temps, qui s'appelle Risque, et qui est quand même très intéressante pour les économistes, parce que la théorie du risque, Bernoulli, enfin, voilà. Et après, je fais quand même beaucoup d'interventions, le matin, le soir, la journée. Pourquoi ? Parce que pas du tout que je me sens, comment dire, très important, ni remplaçable. Personne n'était remplaçable, et en tout cas, c'est encore plus vrai. Mais j'ai eu pas mal d'expérience. J'ai quand même été modestement, mais un académique. Après, j'ai été dans l'académie de Premier ministre. Et que, donc, tout ça est utile. Et comme j'ai une vision assez tranchée sur des sujets, par exemple, sur la politique économique de notre pays, sur la jeunesse, sur la manière dont il faut essayer de faire avancer le débat, pas mes idées, je veux dire, moi j'ai des idées, mais c'est le débat qui est quand même faible dans notre pays, qui est vraiment faiblard. Donc j'essaye par tous les moyens de discuter. Donc ça en fait presque un par jour sur tous les sujets évoqués. Après, j'écris quand même, par exemple là, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Violence avec un jeune. Voilà, mais ça prend quand même du temps. Ça, c'était tous les dimanches. Tous les dimanches, on a écrit, et je l'ai vraiment écrit avec mon petit camarade Michael Bérébi, mais il se trouve que Michael, plus jeune, a surtout fait un travail formidable d'apport d'information, mais l'écriture proprement dite, c'est quand même moi qui l'ai faite, et donc ça prend du temps. Et là, on va sortir un nouveau bouquin, là aussi plus collectif, sur le nouveau contrat intergénérationnel, c'est-à-dire vous et moi, comment est-ce que... Voilà, donc ça prend du temps et on va le démarrer peut-être dans 8-10 jours. Et puis, dernier sujet, je me suis fait taper sur les doigts, mais j'assume complètement, je trouve que c'est absolument débile de me taper sur les doigts, on peut me taper sur les doigts sur plein de choses, je suis dans deux conseils d'administration, alors ça prend pas énormément de temps, mais c'est un moyen évidemment très intéressant de savoir ce qui se passe. C'est absurde. Donc, comment se prennent les décisions? Moi, ma vie aurait été celle d'une modeste, d'un curieux. Ce qui m'intéresse, c'est la vie. Et d'essayer de comprendre, de ne pas mourir totalement idiot. Et donc, je me suis interdit rien. Je ne me suis rien interdit. Je discours idéologique sur ces sujets me rase profondément. Et puis, dernier sujet, donc ça fait peut-être un peu plus de 6 d'ailleurs, je suis dans pas mal d'institutions. Donc, ça, c'est le truc de mon âge. Hein. Donc, je suis dans une fondation sur Alzheimer. Je suis dans un truc qui... l'Institut du Bachelier, qui est un truc qui d'ailleurs n'est pas très éloigné de Ulm. Je suis dans pas mal de trucs dans ce genre-là. Bon, une fois de plus, tout ça est modeste, ça donne l'impression d'être important. C'est juste parce que j'ai une bonne expérience de la vie.
Vous travaillez beaucoup,
alors. Ah, sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt.
Alors,
Mais curiosité, la vie ne m'a pas fait génial ni incroyablement créatif, mais très curieux et très, je crois, ouvert. Donc, c'est ce petit rôle-là que j'essaie de remplir.
Alors maintenant, je vais passer à quelques questions sur votre dernier livre. Donc, dans ce livre tout récent, Un monde de violence, l'économie mondiale 2015-2030, coécrit avec un actuaire de 25 ans, Michael Bérébi.
Génial.
Vous dressez 6 contraintes majeures pour notre société: le ralentissement du progrès technique, le vieillissement, les inégalités, la désindustrialisation de l'Occident, les excès de la finance et le manque d'épargne que vous prédisez. L'ultime chapitre propose quelques solutions face à ces problèmes. Banaliser l'activité jusqu'à ce que les travailleurs soient en situation de dépendance, socialiser l'eau et la nourriture, créer une dette publique perpétuelle, c'est-à-dire qu'on paye des intérêts mais on ne rembourse jamais l'emprunt, réformer en profondeur le système monétaire international pour aller vers des taux de change fixes, faire porter le risque de long terme sur l'État et celui de court terme sur le privé en ce qui concerne les investissements. Alors, comme ça parle d'énormément de choses, je vais choisir donc un sujet, c'est le système monétaire international. Donc vous évoquez une réforme, que pensez-vous d'évoquer une monnaie unique mondiale?
C'est formidable, c'est la vieille idée qu'avait Keynes en 45. Si vous m'autorisez, je voulais vous dire juste un mot sur le bouquin. Ce bouquin fait partie, je crois, de tout un courant de pensée, avec des gens beaucoup plus brillants que je ne le suis, qui ont au fond l'idée que la trajectoire de l'économie mondiale est en train de se modifier. C'est-à-dire que, vous savez, on est tous paresseux, Boulet, je le suis, et on est paresseux intellectuellement, c'est qu'on a toujours tendance à considérer qu'on reporte l'histoire du passé de manière linéaire, et la seule courbe qu'on connaisse, c'est une droite, et elle est dans le prolongement après simplement 6 années ou 7 années de difficultés. Je ne crois pas du tout à ça, pour deux raisons. Une qui est aujourd'hui développée avec beaucoup de talent par beaucoup d'économistes américains. Donc je suis stupéfait que les Européens ne soient pas sur le pont sur ce sujet-là, et notamment sur le fait que ceci est repris par un économiste pour lequel j'ai beaucoup d'estime en France, qui est Patrick Artus, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle « La croissance zéro ». Nous sommes interrogatifs sur le fait que la floraison d'innovation que vous utilisez, vous êtes un scientifique, on a le sentiment que tout ça bouge, ne se traduit pas dans une réalité de gain de productivité, donc de croissance, donc d'emploi. Donc problème de gain de productivité. Et cette interrogation ne signifie en rien que nous ne pensons pas qu'il ne va pas y avoir une révolution industrielle. Nous nous contentons de dire que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ou plus exactement, vous avez par exemple énormément d'emplois non qualifiés dans nos pays, plus que dans le passé, contrairement à ce qu'on pense. On pense que tout le monde sort de Normal Sup et part en Californie et fait des trucs. La réalité, c'est que quand vous prenez les 200 000 créations d'emplois mensuelles aux États-Unis, vous en avez un paquet qui sont des ouvreurs de port. Tout simplement, c'est lié aux inégalités, parce que le fait qu'il y ait des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a besoin de gens qui portent leurs valises, etc. Donc c'est un premier élément qui est majeur. Quand aura lieu la révolution telle qu'on l'a pensée, ou peut-être, quand est-ce que la révolution en cours se traduira dans des effets de gain de productivité? C'est une question en tout cas majeure, et on ne peut pas nier les chiffres tels qu'ils sont, c'est la baisse de gain de productivité. Deuxième sujet, le vieillissement, alors ça c'est plus mon domaine, c'est complètement sous-estimé, c'est incroyable d'imaginer à quel point les gens ne comprennent pas que d'abord ça, ma génération ça va coûter cher, et donc ça va modifier complètement le champ, la réflexion, les problèmes d'immigration. Vous prenez le cas de l'Allemagne et vous prenez le cas de la France. Vous parlez de taux de change, et je reviens maintenant sur les taux de change. C'est un problème. L'euro, pour lequel je suis, mais pose quand même une interrogation. Quand vous regardez la trajectoire allemande, c'est très important, mon point de vue, d'essayer de regarder quelles sont au fond les contraintes, comme dans un problème de maths, les contraintes auxquelles est soumis un pays. Le problème, c'est un pays vieillissant. On a beau raconter que les Espagnols s'installent, moi je veux bien, mais que les Andalous s'installent définitivement à Kiel, je ne suis pas sûr que ça se fasse en deux coups de cuillère à peau. Et donc, on a un pays dont les besoins de croissance sont en gros d'1%, et dont la logique normale, il n'y a aucun reproche, c'est absurde de reprocher quoi que ce soit, est en réalité de protéger les retraites, et donc un système qui est quand même un système de protection du patrimoine, d'où la crispation sur... Donc cette idée qu'il y a cette trajectoire d'un pays, et le nôtre qui a un développement démographique qui est différent, a besoin de créer de l'emploi. Quand on vous dit c'est terrible, le chômage augmente en France, c'est vrai que c'est terrible, mais il faut rajouter qu'il y a 150 000 personnes en aide qui arrivent chaque année, enfin en gros, qu'il y en a 50 000 en moins chaque année en Allemagne, que ce n'est pas tout à fait le même problème. Donc nous avons besoin de croissance. Et donc, les politiques monétaires et donc la définition de l'euro doit prendre en compte cette différence. Et en réalité, on s'est trouvé confronté à non seulement à la vision un peu, je trouve, simpliste de dire il faut plus de transferts entre le nord et le sud de l'Europe, mais d'abord une compréhension macroéconomique de ce qui se passe. Et c'est une compréhension difficile, et qu'on ne peut pas balayer d'un coup de comme ça, un coup de balai. Donc voilà en quoi le taux de change. Alors maintenant, je pense qu'on rentre dans une période de tension, d'où ce titre qui est un peu un titre d'éditeur, qui est un peu pas tout à fait dans mon tempérament, parce que moi la violence, tout ça, c'est pas trop mon truc, mais qui revient à dire qu'il y a de fortes tensions et que vous pourrez constater que les tensions auxquelles nous allons assister, la réorganisation du monde, la modification de la mondialisation sera vraisemblablement marquée par des changements de système monétaire international. Et donc, comme je pense que les tensions s'expriment de manière moins violente lorsqu'elles sont encadrées dans un dispositif organisé, c'est vrai que j'ai la nostalgie du système de Bretton Woods, qui était quand même très intelligent. Quand vous voyez, par exemple, cette histoire du prix du pétrole, je relisais les papiers qui étaient écrits il y a simplement 8 mois, mais il n'y a pas une personne au monde, pas un pétrolier, pas un analyste financier, pas un économiste, pas un politique, qui avait même l'idée qu'on puisse avoir des mouvements aussi brutaux. Or, il se trouve que c'est plutôt favorable, parce que ça touche plutôt... Ça dépend pour quel pays, mais comme les pays que ça touche sont plutôt des pays rentiers et des pays qui, au fond, utilisent cette rente, mais c'est clair que pour l'Algérie, c'est dramatique, c'est clair que la Russie est quand même confrontée à un problème majeur, peut-être est-ce une bonne chose. Donc tout ça est évident, mais de notre point de vue, c'est très favorable et vraisemblablement plus qu'on le dit. Voilà.
D'accord. Et donc, quel système monétaire international est-ce qu'il faudrait mettre en place ?
Moi, je crois, j'ai relu tous les débats de Bretton Woods, que j'ai trouvé très intéressant. C'est formidable l'intelligence qui était mise. Le système de Bretton Woods est un système qui ne peut pas s'appliquer au sens strict, pour une raison simple, c'est que au-delà de la fixité des taux de change, il y avait l'idée qu'il y avait une monnaie de réserve internationale unique et que nous trouvons confrontés, du moins je l'espère, à une multiplicité de monnaies de réserve, dont j'espère l'euro, c'est-à-dire, à mon sens, le vrai côté positif de l'euro, c'est pas la gestion interne, ça sera, de toute façon, ça sera toujours compliqué, mais c'est cette capacité de pouvoir exister sur le change, s'il y a des tensions. Évidemment, le renminbi et évidemment le dollar, mais avec des poids qui vont évoluer. Et donc, je suis favorable à, j'allais dire, non à une sorte de Bretton Woods, mais dans lequel la monnaie de réserve serait un panier de réserve prenant en compte les 5-6 monnaies qui comptent et modifiant donc cette domination excessive du dollar sur...
Et
avec des taux de change fixes. Mais ajustable. Le système de Bretton Woods est très intelligent quand même. Alors après, la vraie question,
c'est... Pourquoi pas une monnaie unique ?
Bien, attendez, ce serait évidemment, c'est le rêve absolu. Mais le problème que de tout le débat du 19e siècle, puisque la monnaie unique c'est l'or, hein, c'est qu'on crée de la monnaie en fonction des découvertes qu'on fait d'or. Donc il faut trouver...
Non mais on peut le faire, on peut prendre de la monnaie...
Oui.
Scripturale, je veux dire.
Mais il faut à ce moment-là trouver une... Il faut avoir une banque centrale. Et moi, je crains qu'on tombe de Caraïbes en Scylla. Pourquoi ? Parce que l'idée d'unifier les trajectoires des économies dont on voit un peu les difficultés en Europe, c'est quand même, à un moment ou à un autre, pas si favorable que ça. Moi, je crois qu'un système a besoin de souplesse. Si on avait une espèce de monnaie dont le gouvernement serait capable de prendre en charge aussi bien les pays du Sahel que les États-Unis d'Amérique, je veux bien, mais n'oubliez pas que la mondialisation, dans sa version un peu béate et simpliste, ça revient à supprimer les cultures vivrières en Afrique. Donc il faut faire très attention au fait que l'unification, c'est aussi un moyen que les plus puissants ont d'imposer ce qui apparaît comme la doxa.
D'accord. Alors, sur la réforme du système financier, qu'est-ce que vous pensez des propositions de Stiglitz dans le rapport pour changer le système financier ? Par exemple, l'interdiction des marchés de gré à gré ou,
Oui, bien sûr. Mais je crois que là aussi, il y a un peu de naïveté. C'est-à-dire que l'industrie financière s'est désormais constituée comme une industrie, beaucoup plus que par le passé, qui a sa propre logique, qui a ses propres rendements, etc. Et donc, tout le sujet, c'est de savoir comment on peut, à mon avis, plus même que la régulation du système financier, qui est à mon avis quand même très compliqué, mais j'essaie là d'être pragmatique, d'essayer de basculer vers, de se mettre comme contrainte première en quoi la finance est utile à l'économie réelle. Si on prend le cas de la France, je reviens à l'instant, on voit bien que le système financier pour votre génération, même si le crédit apparaît pour les PME, plutôt en amélioration, etc. Mais dans la réalité, le système financier d'un pays comme le nôtre ne permet pas, j'allais dire, la création. Et d'une certaine manière, le système financier américain le permet. Vous êtes dans une université américaine, c'est vrai que vous avez des moyens de financement. Si on voit que vous êtes génial, bon, France, on est quand même très loin. Or, on a beaucoup d'argent. Donc, mon sujet, c'est comment j'arrive prendre cette épargne disponible et la mettre au service de l'économie réelle, sachant que le mot-clé, vous allez voir un tout petit peu de cohérence dans mon existence professionnelle, le mot-clé, c'est le mot de risque. Vous avez une société qui se vieillit et qui donc devient aversoriste. Donc, vous demandez à des gens de ma génération de vous financer, vous m'expliquez que vous avez un projet formidable. Tout à l'heure, je vais avoir sûrement 2-3 personnes exactement de votre âge qui arrivent avec des projets absolument fabuleux. Et moi, j'essaye de voir si on peut aider au financement. Mais objectivement, c'est quand même pas la tendance naturelle. Et donc, mon idée de base, c'est au-delà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réguler, mais c'est le sujet numéro 2. Le sujet numéro 1, c'est de récupérer cet argent. Et la récupération de cet argent, c'est le partage du risque.
D'accord. Alors, est-ce que...
Très important en théorie économique, hein, le partage du risque. Juste un exemple, par exemple, le programme nucléaire français a été, on est pour, on est contre, c'est un gros investissement, il a été financé uniquement par de l'argent privé, mais garanti. Donc vous avez un problème de garantie. Donc prise en charge du risque par la collectivité. Pas bien ça que l'État.
Qu'est-ce que vous penseriez de...
Après on arrête. Hein.
Ok. Alors, que voulez-vous faire de l'eau Quand vous parlez de faire de l'eau un bien commun de l'humanité, comment sa gestion serait gérée en pratique?
Voilà, alors, ne m'assassinez pas, mais 60% des terres arables non utilisées sont en Afrique. Et il faut quand même un peu d'utopie. Mon idée est la suivante, c'est que qu'il y ait de l'arithmétique simple, mais vous êtes le mieux à même de comprendre la logique de ce que je vous peux raconter. C'est que vous allez avoir une augmentation démographique environ 2 milliards de personnes, entre 2 et 3 milliards. Si votre idée, c'est de dire qu'il faut nourrir les gens, vous êtes comme moi, vous avez envie qu'on nourrisse les gens, la production agricole mondiale ne permet pas aujourd'hui de satisfaire ses besoins. Donc les prix agricoles vont augmenter. C'est donc horrible. Ou rationner. Toujours le prix ou la quantité. On va rationner. Rationner, ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent de faim, les émeutes de la faim, sinon le prix. Et moi je dis que j'augmente un peu le prix des produits agricoles et je pique une partie pour coller ce qui est la contrainte. Il y a deux contraintes en Afrique. Je ne suis pas spécialiste, hein, mais de tout ce que j'entends, lis, etc. La première, c'est évidemment le problème de l'électrification, parce qu'on a besoin d'électricité, et l'électricité n'existe que dans les grandes villes, et pour la production agricole, l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de terres arables, mais il n'y a pas d'eau. Il faut creuser les trous, etc. Et donc, mon idée, c'est qu'un programme mondial de financement d'eau pour les paysans africains, ce milliard de personnes qui va arriver, enfin, c'est là où ça va se passer, peut se faire par un prélèvement sur les produits agricoles. Donc voilà, c'est une utopie, je ne sais pas bien comment on fait, mais je pense que l'idée elle-même est très défendable.
Nous allons conclure cette émission par le traditionnel triptyque de fin. Le fait économique que je vais présenter aujourd'hui est le fait qu'il y ait 100 millions de pauvres dans l'Union européenne, c'est-à-dire des personnes gagnant moins de 60% du revenu médian européen, soit moins de 720 euros par mois. Mais ces pauvres sont inégalement répartis. Par exemple, 70% des Polonais en sont, contre seulement 8% des Français. C'est dû au fait que l'écart entre le revenu moyen bulgare et norvégien est de 1 à 4, et même 1 à 15 si on ne raisonne pas en termes de parité de pouvoir d'achat. La référence que je vais donner, c'est un simulateur très complet du climat pour essayer soi-même de changer le cours de l'évolution du climat. C'est globalcalculateur.org. Globalcalculateur.org. Enfin, la citation est une citation de Skidelsky qui a dit: le comportement rationnel s'assimile au fait de partager une anticipation des événements futurs identique aux prévisions que font les économistes de l'école de Chicago.